réponses à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité d'Okapi Service.
Bien, nous abordons à présent notre premier thème du jour. Nous parlons des hépatites. Vous savez, les hépatites sont des maladies silencieuses dont les signes apparaissent généralement des années plus tard, des années après, d'après les spécialistes. En RDC, environ 8% des Congolais en souffrent, d'après la direction des surveillances épidémiologiques du programme élargi des vaccinations. Alors, quelles sont les causes des hépatites? Comment se manifestent ces maladies? Quels sont les traitements appropriés? Bien, nous allons faire le tour de ces questions avec Dr Michel Nyembwe. Il est médecin biologiste et spécialiste en microbiologie. Docteur Michel, bonjour.
Bonjour, Jordi.
Et bienvenue chez nous. Bienvenue à Capi.
C'est un plaisir.
La première question, docteur, c'est de nous définir, bien entendu, qu'est-ce qu'on entend par hépatite et pourquoi on parle des hépatites au pluriel.
Bon, en fait, je pense que quand on parle d'hépatite, il faut toujours ajouter hépatite virale, puisque en médecine, lorsque on parle HIT, vous entendez soit HIT, c'est-à-dire une inflammation d'un organe. Pardon, je donne un exemple pour ceux qui les commettent du mortel, ça vaut soit appendicite, c'est l'inflammation de l'appendice. L'organe, c'est l'appendice. Quand c'est inflammé, c'est.
Alors, l'appendicite.
Alors, l'hépatite, c'est l'inflammation du foie. Mais on ne dit pas foie-hite, mais on dit hépatite. Alors, cette inflammation, c'est une agression qui est d'origine diverse, d'origine microbienne. Mais dans les cas d'espèces dont nous parlons aujourd'hui, ce sont les hépatites virales. C'est-à-dire le foie agressé par le virus. Il y a un groupe de virus qui ont une affinité pour cet organe.
Qui attaque le foie.
Qui attaque le foie.
Et le foie, c'est un organe qui joue quel rôle dans le corps humain?
Un organe très important. Il n'y en a pas deux, il n'y a qu'un seul foie. On parle de foie. Mm-hmm. Les chrétiens parlent de la foie, avec sans E à la fin, mais le foie comme organe, c'est avec E à la fin.
Okay.
Alors, le foie, c'est cet organe qui pèse environ 1 kg, 500 grammes, à l'annexe du tube digestif. Il est situé dans la partie droite, à l'hypocondre droit.
Oui.
Alors, cet organe joue des fonctions essentielles. Nous pouvons le comparer à une usine de l'organisme.
Mm-hmm.
Il est principal, comme principale fonction, dans la détoxication des médicaments. Les médicaments que nous prenons, la majorité, passent par le foie pour être métabolisés, n'est-ce pas, afin d'être utilisé dans l'organisme. Le foie joue un rôle aussi dans la production des protéines importantes, notamment l'albumine, n'est-ce pas, qui est une protéine essentielle dans l'organisme, et d'autres anticorps de l'organisme, des immunoglobulines sont produites au niveau du foie. Alors, le foie joue également un rôle dans la coagulation sanguine. Il y a plusieurs facteurs de coagulation qui sont synthétisés au niveau du foie. Le foie joue un rôle dans la digestion par la sécrétion de la bile, qui intervient, n'est-ce pas, dans la solubilisation des... Donc, vous comprenez déjà...
C'est un organe qui joue un rôle important dans le corps.
Important. C'est-à-dire que quand le foie est attaqué et détruit, et généralement, le pronostic vital est entamé, c'est la mort sans suite.
Alors, quelles sont les raisons ou les causes qui peuvent provoquer, être à la base de l'inflammation du foie?
Ouais, nous parlons des hépatites virales. Le foie peut être agressé par plusieurs causes, d'autres, même d'autres parasites, hein. Mais ici, pour le cas d'espèce, ce sont des virus. Il y a des virus qui ont une affinité particulière pour le foie. Alors, ces virus, on les désigne curieusement par des lettres d'alphabet. Il y a des hépatites A, il y a des virus de l'hépatite B, virus de l'hépatite C, hépatite D, hépatite E. Mais il y a de plus en plus, on en découvre, hein. Il y a des pyrovales, même déjà des hépatites G, tout ça. Alors, ces virus... comme nous avons dit, ils attaquent le foie et se manifestent, ils se transmettent différemment, quoi. Alors, dès que les hépatites, le virus de l'hépatite A et E sont essentiellement des maladies des mains sales. Ça se transmet comme...
A et E.
Ouais, A et E. Donc, c'est que le public peut retenir A et E sont des maladies des mains sales.
Okay.
On dit à la mauvaise hygiène. La consommation des aliments contaminés par les matières fécales, l'eau souillée, de boissons souillées.
Le choléra.
Voilà, c'est pratiquement la même chose qu'avec les salmonelles et la fièvre typhoïde.
Ok.
Voilà. Mais l'hépatite B, C, sont des hépatites, ce qu'on appelle sériques, qui se transmettent essentiellement par les produits sanguins. Et les liquides biologiques, les sangs et dérivés.
Transfusion. Il y a la transfusion sanguine.
Tout à fait, transfusion non sécurisée. Il y a la transmission sexuelle aussi. Donc les hépatites B et C, ce sont des infections sexuellement transmissibles au même titre que les infections à VIH-Sida. Et la transmission peut se faire aussi de la mère à l'enfant, l'hépatite B et C. Alors, l'hépatite D, d'aucuns se demandent, l'hépatite D, c'est une forme d'hépatite qu'on appelle, qui dépend du virus de l'hépatite B. C'est un virus défectif, c'est-à-dire que pour agir, il a besoin d'utiliser les composantes de l'enveloppe du virus de l'hépatite B. Donc, quand vous avez une infection hépatite delta, on a dit D, c'est qu'elle est concomitante avec l'hépatite B. Et ça aggrave les tableaux cliniques de l'hépatite B. Bon, c'est, de façon générale, ce que le public peut retenir, sans aller trop dans les détails techniques, oui. Les virus des hépatites, les hépatites virales sont provoquées par des virus qui ont une affinité pour le foie, organe important de l'organisme. Et les virus se sont nommés par des lettres d'alphabet A, B,
C. Et vous avez dit les facteurs qui les favorisent, c'est des maladies de mains sales, la transfusion sanguine non sécurisée.
Donc nous avons A et E pour ce sont des maladies de mains sales. La consommation de l'eau, des boissons souillées, des matières fécales et tout ça. Et tandis que les hépatites B, C, ce sont des hépatites transmissibles par voie sanguine, liquide biologique, voie sexuelle et de la mère à l'enfant. Pendant l'accouchement, surtout à cause du sang, quoi, au moment de l'accouchement.
Voilà. Et quelles sont les manifestations de ces maladies? Comment est-ce que les quatre, c'est combien de virus? Cinq. Est-ce que A, B, C, D, E, est-ce que ces virus se manifestent de la même manière, ont les mêmes manifestations ou c'est différent?
Les manifestations dépendent de
du type de virus.
Du type de virus. Mais, disons, la période d'incubation, la période silencieuse, lorsque le virus entre dans l'organisme, elle aussi varie d'un virus à l'autre. Elle est plus ou moins courte pour les virus d'hépatite A et E, mais un peu longue, pouvant aller jusqu'à 90 jours pour les virus de l'hépatite B. 3 mois d'incubation. Mais au moment de la manifestation, la forme clinique dépendra du type. Hein. Vous avez les hépatites aiguës. Aigu là, c'est-à-dire que la maladie s'exprime, quoi. Là, vous avez la majorité, 90% des hépatites contactées à l'âge adulte se manifestent de façon aiguë. Alors, vous avez des signes qui sont pas très différents des autres maladies courantes, la fatigue, les nausées, les vomissements, les troubles digestifs, n'est-ce pas? On va s'accompagner avec ce que les gens appellent la jaunisse. L'ictère. Vous voyez l'individu qui a des yeux jaunes, il a des urines jaunes, mais curieusement, les selles sont décolorées. Vous avez des selles qui perdent leur couleur, là. D'aucuns appellent les selles mastiques. Alors, ça, c'est dans une forme d'hépatite aiguë, mais ça peut aussi s'accompagner de fièvre, de fatigue intense. Mais dans les hépatites chroniques, la maladie n'a aucune manifestation. C'est souvent silencieux. L'individu porte le virus sans savoir, il vit, il est dans la société, mais on découvre que là, la maladie, c'est de façon fortuite à l'occasion d'une transfusion sanguine. Quand elle va pour donner du sang, on lui dit non, toi, tu ne peux pas donner du sang parce que dans ton sang, on a trouvé que tu as des marqueurs de l'hépatite. Ah, c'est à ce moment-là qu'il s'est dit, tiens, je ne savais pas.
Donc, il n'y a pas de signe, rien du tout. La personne vit avec la maladie pendant plusieurs années,
sans s'apercevoir.
Oui.
Alors, ce portage chronique peut évoluer dans une proportion des cas. Mais, c'est souvent lorsque l'infection est contractée dans l'enfance, soit de la mère à l'enfant, ou soit dans la petite enfance, l'enfant est contaminé par les contacts avec les petites blessures, les écorchures. Vous savez, les enfants jouent beaucoup.
Oui.
Ou soit les mâchonnements, ils s'échangent de bonbons, des biscuits, tout ça, de la salive. Alors l'enfant qui contacte la maladie sera souvent, il est porteur silencieux.
D'accord. On y revient tout à l'heure, docteur. Le temps d'accueillir deux auditeurs. Victor Ingopa nous appelle les Kananga et Esther Oubedi de Magui en province orientale. Vous voulez également participer à cette émission, poser vos questions, composez le 081-890-63-94. Nous parlons des hépatites virales, causes et remèdes.
Votre radio vous propose chaque après-midi 2 heures de découverte. De 13h à 15h, partez à la découverte des recettes et des femmes du Congo. Suivez nos reportages, vie quotidienne, paroles d'enfants et femmes d'aujourd'hui. Laissez-vous guider par les balades en zigzag. Un zeste de culture et beaucoup de musique. 13h-15h, découverte, le cocktail de l'après-midi sur Radio Okapi.
Hépatite virale, cause et remède, Victor Ingopa de Kananga, bonjour.
Bonjour Nodi, bonjour aussi à tous les auditeurs de Radio Okapi, bonjour aussi à notre invité.
Vous avez la parole, Victor.
Merci. Je voudrais seulement poser quelques petites questions à notre invité. Moi, vous savez, moi je ne suis pas du domaine, et dernièrement on venait de dire on avait célébré une journée de lutte contre l'hépatite. Alors, à mon avis, je ne comprenais absolument rien. Mais Dieu merci quand même, nous avons invité ce matin pour nous expliquer, il nous a expliqué à long et à large.
Oui.
Mais ça ne peut pas être que je puisse poser de petites questions. Quelqu'un qui souffre de cette maladie-là, il n'est pas du domaine de la médecine. Comment il peut disponer que non, l'hépatite que je suis en train de souffrir, c'est l'hépatite B ou C, parce qu'il a parlé d'hépatite qui C, B. Alors moi, personnellement, je ne sais pas, quelqu'un qui souffre de cette maladie-là et qui n'est pas du domaine, comment il peut distinguer la catégorie de cette maladie-là. Ça, c'était la première question. Et la deuxième question, est-ce que l'hépatite B, on peut la maîtriser ou soit on peut le soigner et guérir directement? Parce que hier, j'ai entendu à la radio, on disait, dans les cas de diabète, on ne guérit pas la maladie du diabète, mais on la maîtrise. C'est le cas aussi avec l'hépatite B. Et maintenant, quelles sont vraiment les causes primordiales qui font à ce que la personne puisse souffrir de cette maladie-là? Est-ce qu'elle est aussi contagieuse? Ce sont les petites questions que je vais vous poser par-ci par-là.
Merci Victor Ingopa de Kananga, hépatite virale, cause et remède. Esther Oubedi, vous êtes à Magui, en province orientale. Bonjour.
Bonjour Jody, bonjour à tous.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire, Esther?
J'ai un témoignage concernant ce sujet.
Oui.
Voilà, au décès de mon beau-frère, son médecin traitant a certifié qu'il était décédé d'une hépatite fulminante.
Une hépatite comment?
La maladie fulminante.
Fulminante. OK.
Voilà. Comme vécu, la maladie a évolué très rapidement sur une période de 2 semaines et a abouti à son décès. Alors, ayant vécu la situation, je suis tout à fait très curieuse de m'informer de plus concernant cette maladie. Mmh. Alors, je vais m'en poser 3 questions. Comment est-ce qu'on peut classer cette forme d'hépatite comme il parlait d'hépatite A, B, C, D, E, sous quelle forme est-ce qu'on peut les classer cette hépatite fulminante? Okay. Deuxième question, quelles seraient peut-être les causes de cette forme-là? Et puis, troisième, quelles sont les conduites à tenir pour cette forme d'hépatite? Merci.
Merci Esther Oubedi. Adrienne Amouyeti nous appelle de Lubumbashi. Bonjour Adrienne.
Bonjour Jody Daniel, bonjour aussi à mes...
Bien, on vous écoute Adrienne.
Ok, moi j'aimerais demander à M. Michel Mnyembo, parce que je n'ai pas bien compris dans l'introduction, d'où provient cette maladie des hépatites. Et ma deuxième préoccupation est de savoir comment est la contamination de cette maladie, donc des hépatites. C'est ça même mes 2 questions. Merci Jody.
Bien, merci Adrienne. Docteur Michel Nyemboué, vous avez suivi les auditeurs, ces termes les intéressent. On va commencer par Victor de Kananga qui dit comment distinguer les différentes formes d'hépatite car on n'est pas du domaine médical, car on n'est pas spécialiste. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Merci chers auditeurs, merci pour l'intérêt accordé à cette émission et puis félicitations à la Radio Capi pour cette large vulgarisation. Donc Victor, merci pour votre question. Au fait, quand on n'est pas du domaine, on n'a pas vraiment besoin de savoir comment distinguer. Non, mais celui qui pose le diagnostic,
c'est le médecin.
Le médecin, c'est à l'hôpital. Mmh. C'est à l'hôpital. Le malade vient se plaindre quand il y a un problème. Nous avons dit que pour l'hépatite A et E, généralement, ce sont des hépatites qui ne passent pas à la chronicité.
C'est-à-dire?
Ce sont des hépatites aiguës
okay.
qui se manifestent. les manifestations, là, peut-être c'est pour répondre d'une pierre deux coups à l'autre, à la question d'Adrienne, comment ça provient, comment... Les manifestations, nous avons dit, la personne aura la fatigue, des nausées, des troubles digestifs, avec peut-être fièvre, et c'est surtout la jaunisse. Même l'entourage va dire aux malades que non, vraiment.
La personne a des yeux jaunes.
Des yeux jaunes, des urines jaunes.
Ok.
Alors, ce qui va les pousser à venir à l'hôpital. C'est au moment où on pose des diagnostics, maintenant que les médecins vont demander des analyses. Et à travers les analyses de laboratoire, on va mettre en évidence ce que nous appelons les marqueurs sérologiques. Ce sont les marqueurs sérologiques qui vont montrer les stigmates de la maladie, qui vont dire non, ça c'est l'hépatite A et E. Alors, mais la prise en charge sera différente. Donc, pour
Victor, il veut également
les hépatites A et E sont généralement de bons pronostics, hein. Et ça évolue. Les traitements, les maladies virales généralement n'ont pas de traitement, mais ça évolue bien. Tout ça. Mais il y a des vaccins pour l'hépatite A. Alors,
seulement pour l'hépatite A.
Et aussi pour l'hépatite B.
Ok.
Alors, pour le...
Il veut savoir est-ce que c'est une maladie contagieuse. L'hépatite B est-elle une maladie contagieuse? C'est la deuxième question de Victor.
Oui, la deuxième question de Victor, j'avais noté, c'était peut-on guérir de l'hépatite?
Peut-on la soigner ou la maîtriser? Et puis, oui, il a dit est-ce que c'est une maladie contagieuse?
Sur le plan d'abord de la prise en charge de l'hépatite B, il y a d'abord la prévention. En médecine, nous, surtout nous, dans le cadre des pays à faible revenu, on met beaucoup d'accent sur la prévention. Sur le plan de la prévention, il faut d'abord savoir comment se transmet la maladie pour la prévenir. Donc pour l'hépatite B, et c'est là j'en profite pour répondre à d'autres questions, nous avons dit, pour récapituler, la transmission se fait par essentiellement par voie sanguine. C'est-à-dire, qu'est-ce que le ministère de la Santé fait? C'est de rendre disponible à tout au niveau du pays les précautions de dépistage avant toute transfusion sanguine. C'est un mode de traitement, la prévention. Alors, éviter d'utiliser les scarifications, les tatouages avec les mêmes instruments. Aujourd'hui, de plus en plus, on voit des jeunes qui se
tatouent. Les tatouages, c'est à la mode actuellement.
Oui, c'est devenu à la mode. Quand on se tatoue, si on utilise les mêmes instruments pour les tatouages, on peut se contaminer. Alors, par voie sexuelle, comme nous avons dit, c'est une infection sexuellement transmissible. La prévention, c'est l'utilisation des... Ou d'abord, l'abstinence sexuelle, ou le port de préservatifs. Donc, les rapports sexuels sécurisés. Donc, le port de condom est un moyen efficace pour prévenir les hépatites. Alors, de la mère à l'enfant, là aussi, il y a moyen de prévenir. Alors, nous, au programme ménager de vaccination, depuis 2007, on a introduit les vaccins contre l'hépatite B dans les calendriers vaccinaux.
Des routines.
Des routines. C'est-à-dire, les enfants qui avaient... et qui sont nés vers les années 2007, reçoivent à travers l'injection de la cuisse des vaccins contre l'hépatite B, sous forme combinée. Alors, ces enfants seront protégés. Donc, ça veut dire que vers les années 2027, nous aurons des enfants. La fréquence des cirrhoses, le cancer des foies va baisser parce que les PEV préviennent déjà cette maladie.
L'hépatite, c'est ça qu'on appelle aussi cirrhose des foies?
La cirrhose, c'est une complication.
Des hépatites.
C'est l'une des complications. Mais la cirrhose n'est pas nécessairement due aux hépatites. Donc, curieusement, les gens, les communs du mortel pensent toujours que la cirrhose, c'est quand on boit beaucoup l'alcool. Il y a des gens qui sont morts de cirrhose des fois sans être alcooliques. Okay. Alors, ce sont des cirrhoses dues
aux
hépatites virales. Surtout, la forme B et C qui passe souvent à la chronicité et à la longue détruit progressivement les foies. Et les cellules du foie, c'est. Sont maintenant remplacés par les tissus cicatriciels qu'on appelle ceux qui donnent la cirrhose.
Alors, ces deux formes-là peuvent devenir chroniques, on ne peut pas s'en guérir.
Alors, quand ça devient chronique,
c'est fini, donc il n'y a plus de traitement.
Il n'y a plus de traitement. Raison pour laquelle on essaie sur le vaccin, la prévention.
Alors, Esther Demag nous a parlé de quelqu'un, de sa famille qui est mort d'une hépatite fulminante en l'espace de deux semaines. Elle veut savoir sous quelle forme placer cette hépatite fulminante et quelles sont les causes et conduites à tenir.
Oui, Esther, je compatis avec ce qui est arrivé dans la famille. C'est, effectivement, merci pour ce témoignage. Vraiment, l'hépatite fulminante n'est pas classifiée parmi les hépatites. En fait, ce n'est qu'une expression clinique qui veut dire que la maladie était,
a évolué
très rapidement. Donc l'adjectif l'avait dit seulement que non, c'était une hépatite carabinée. On peut même dire carabinée pour dire que non, effectivement, vous avez dit c'est à moins de 2 semaines que vous avez perdu votre membre de famille de cette maladie. Alors là, c'est de l'occasion pour répondre, expliquer. La réponse à cette maladie dépend d'un organisme à l'autre. Il y a surtout les enfants et ils tolèrent. Des virus entrent au niveau des cellules du foie et ils restent longtemps endormis sans que l'organisme réagisse. Mais généralement, lorsque l'infection se contracte à l'âge adulte, la réponse immunitaire, c'est-à-dire l'ampleur de... Puisque l'organisme réagit aussi. Alors, c'est l'ampleur de la réaction qui détermine aussi la gravité des tableaux cliniques. Lorsque l'organisme réagit violemment aussi, on peut assister à cette forme d'hépatite fulminante.
On suppose que les grandes personnes sont déjà immunisées, elles ont reçu les vaccins et qu'elles ne peuvent plus développer cette maladie. Bon, c'est, la question revient nous amène à savoir quelle est la tranche d'âge qui est beaucoup plus affectée par ces différentes formes des hépatites.
Non, au fait, nous avons dit que le vaccin dans notre pays a introduit en 2007. Ça veut dire que les gens qui sont nés avant n'ont pas eu ces
vaccins. Ils peuvent développer.
Ils peuvent développer. Maladie. Raison pour laquelle, dans l'estimation du poids de la maladie, on estime que. D'ailleurs, sur le plan de la classification de l'Organisation mondiale de la santé, la République démocratique du Congo, la prévalence, nous sommes un pays à haute prévalence, c'est-à-dire de 8%.
Alors, si c'est beaucoup.
C'est beaucoup. Si on estime que c'est de 8% de la population congolaise, aujourd'hui, avec les estimations démographiques, si on est donné la vaccination, nous sommes autour de 78 millions de Congolais. Alors, faites 8%, ça fera autour de 6 millions de Congolais qui sont porteurs asymptomatiques. Mais nous ne voulons pas que ça puisse créer une psychose dans la population et que la population sache que cette maladie existe et sache comment prévenir.
Parce qu'il y a des dépistages qui sont
organisés. Oui, les dépistages se font généralement, malheureusement, souvent à l'occasion des transfusions sanguines. Mais pour les gens qui ont été dépistés positifs, c'est qu'il faut savoir que tous les cas n'évoluent pas nécessairement à la chronicité. 6 mois plus tard, après avoir été positif, on peut refaire les tests. À ce moment-là, les anticorps neutralisants peuvent apparaître.
Ok. Docteur Michel, on va s'arrêter par ici. Merci. Je rappelle que vous êtes médecin biologiste et spécialiste en microbiologie. Michel Nyemboué. Merci d'avoir répondu à notre invitation.
Merci,
et à la prochaine.
Merci, c'était un plaisir. Merci.
Ok.